France Culture.
Guerre.
Avant la guerre.
Avant la guerre.
Après la guerre.
Après la guerre.
Une terre splendide, mal gouvernée.
Dobri ljudi.
Des gens magnifiques qui ne voient pas de perspective.
Nedostatak perspektive. Donc, une terre splendide.
Une terre
des
splendide.
Gens magnifiques.
Des gens magnifiques.
Aucune perspective.
Aucune perspective.
Bosnie-Herzégovine, 1995-2025. La solitude des Bosniens. Aline Kateux, Yael Mandelbaum.
Alors, le premier mot serait Walter, donc le pseudonyme de Vladimir Peric, un des leaders de la résistance antifasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième mot, résistance culturelle. Et le troisième mot, c'est Europe, parce que je pense que la Bosnie-Herzégovine est vraiment l'archétype de ce que devrait être l'Europe dans l'idéal, bien sûr pas dans la réalité aujourd'hui où les nationalistes dominent, mais historiquement, la Bosnie-Herzégovine, avec ses différentes traditions qui se sont développées en même temps et qui ont développé aussi, qui se sont développées en parallèle, mais en même temps développé tellement de liens entre eux pour créer quelque chose de nouveau, pour moi, c'est en fait c'est un modèle parfait pour ce que devrait être l'Europe.
Épisode 3, des mémoires encombrantes.
En fait, quand j'avais commencé ma recherche sur Kazani, je ne savais pas où c'était, je savais à peu près la région, et personne ne pouvait vraiment me dire où c'était. Et d'abord, j'avais cru que c'était cette falaise-là. Donc je suis monté dessus, et effectivement, il y avait une crevasse.
La série documentaire propose d'explorer la Bosnie-Herzégovine et d'en dresser un portrait sensible à l'écoute des Bosniens, de leur lutte, leurs idées, leurs espoirs et aussi leurs douleurs. Comme dans tous les après-guerres, les politiques mémorielles sont des champs de bataille sur lesquels se défendent de multiples enjeux.
À certains moments, c'est plus plat et après ça remonte.
En Bosnie-Herzégovine, ce champ de ronces mémorielles emprisonne les récits de la violence, des résistances, des complicités et fait obstacle au pas de côté, à la réflexion.
En fait, c'est cette falaise-là qu'on voit juste devant nous. Donc, qui est quoi, vol d'oiseau,
mémoire contestée, mémoire invisible, mémoire effacée, mémoire douloureuse, autant de configurations mémorielles que de récits. Mémoire encombrante surtout, ce passé qui ne rentre pas dans les récits officiels bosniens.
Ouais, là, on passe les dernières maisons, et là, on va entrer dans la nature.
Cet épisode de la série documentaire consacrée à la Bosnie-Herzégovine propose d'examiner la vivacité du débat mémoriel qui l'anime et parfois la blesse.
Slobodan.
Kako ste?
Bonjour.
Il y a du soleil, hein?
Oui, ça fait du bien.
Da.
Ça fait pas longtemps que vous avez construit ça?
Oh, si. Dans les années 80.
Yeah.
Donc ça a été endommagé pendant la guerre, alors?
Oui, et puis j'ai reconstruit. Ils nous tiraient dessus depuis là-haut.
Maya.
Alors, vous n'avez pas pu rester ici?
Non. Nous, on est la ligne là-haut, sur Trebević. On se faufilait et hop, on arrivait à la ligne.
Ah, vous étiez dans l'armée?
Mon fils et moi, pendant 4 ans, toute la guerre. On était à Bjelašnica, Igman, puis Bihać. On a été partout. J'avais 50 ans. On avait tout avant.
Quand la Slovénie est partie, la Hrvatska, Ponidoïmi, Bosnie-Herzégovine,
quand la Slovénie, la Croatie et puis la Bosnie-Herzégovine ont pris leur indépendance, les Croates et les Serbes ont fait alliance. Et puis voilà, on avait tout, de l'eau, des fruits, Tout, mais voilà. On a tout perdu.
Borac.
En gros, vous êtes un combattant.
Un combattant, oui.
Narada. Io mi Kazani sto su Kanani e tra lì la sta sovica, lì avanti.
Bon, et Kazani, là, c'est pas non plus tout ce qu'on raconte. C'est pas très important, en fait.
Qu'est-ce qu'il y a avec
Kazani?
Mais rien. Ils disent que les nôtres ont tué 3000 personnes, n'importe quoi.
Et tu es mal ici, Kanani, ce n'est pas très bas. Sais. On est au Pogradu, ça se veut de la bien, soi ne caga.
J'étais sur la ligne là-haut quand Satsu était là, j'étais là tout le temps. Tout ça c'est exagéré. Il était en ville et alors moi, il ne me gênait pas. Tout serait différent aujourd'hui s'ils s'étaient mis d'accord. Et aujourd'hui c'est pareil. Mais qu'on nous laisse vivre. Bah oui quoi. Alors après voilà, tout le monde s'en est pris à Tsatsu. Mais il s'est vraiment passé tout et n'importe quoi.
Haide, idemo mi. Merci pour la discussion. Prenez soin de vous. On se verra quand on redescend.
Vous allez où? À Kazani?
Oui.
Doucement en montant.
Ce qui a fondu, donc j'espère que ça ne va pas trop. Parce que comme par moments c'est un peu raide, ça ne soit pas trop glissant. Donc tu vois Aline, c'est cette falaise là. Et voilà. Et donc la ligne de front était, je pense, derrière la rangée d'arbres là. Mais cette partie-là, justement, était protégé en fait par cette grande falaise quoi, donc qui l'a séparé de la partie avec la ligne de front de l'armée bosno-serbe.
Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, ville européenne, symbole de multiculturalisme reflétant si bien la tradition de mixité du pays, est assiégée par les forces serbes de Bosnie à partir d'avril 1992. La ville est encerclée. Les crêtes des collines et montagnes qui entourent la ville nichée au creux d'une vallée se transforment en tranchées, en postes d'artillerie. Les forces armées bosno-serbes s'attaquent à tous les symboles sarajeviens, traces de l'unité et de l'histoire du pays. Les Sarajeviens sont la cible de snipers. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, peu de nourriture. La capitale bosnienne agonise sous les caméras du monde entier. Le maximum de l'implication internationale se traduit par un pont humanitaire aérien qui maintient la ville sous perfusion. Les Sarajeviens et l'armée de Bosnie-Herzégovine résistent pendant 3 ans, 10 mois, 3 semaines et 3 jours. Le siège fit 11 541 victimes.
Quand la Bosnie-Herzégovine a été attaquée, c'était 3 semaines après son indépendance. Donc il n'y avait pas d'armée de Bosnie-Herzégovine qui existait. Donc en fait, il fallait se défendre contre une agression, pas seulement à Sarajevo,
Nicolas
mais
Moll,
si on prend l'exemple de Sarajevo.
Historien.
Et donc c'était une défense extrêmement improvisée. Alors c'était la police, c'était la défense territoriale qui existait déjà à l'époque yougoslave, c'était des groupes de volontaires qui voulaient défendre leur quartier, c'était des petits criminels, parce qu'ils avaient déjà des armes, etc., etc. Donc c'était une défense chaotique, mais efficace, qui a réussi effectivement à contenir l'attaque, et en même temps qui a bien sûr, dans un climat de confusion et de chaos extrême, c'était très difficile de contrôler ce qui se passait. Donc il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises par des milices dans certains quartiers, et une des craintes majeures, bien sûr, aussi de ceux qui défendaient la ville, c'était ce qu'on appelait déjà à l'époque, c'était la cinquième colonne. Voilà, avec la réflexion, il y a les Serbes qui nous attaquent, il y a des Serbes qui habitent en ville, donc les premiers suspects à contrôler, c'est les Serbes. Donc en fait, il y a beaucoup eu de contrôle d'appartement, en fait, sous prétexte qu'il y a des armes. Alors je pense qu'effectivement, il y avait la volonté de trouver des armes, mais ça pouvait devenir aussi juste une intimidation ou essayer de faire partir les gens, etc. Alors il y a la sociologue Yelena Golubovitch qui a fait un travail remarquable sur, en interviewant des femmes serbes qui vivaient à Sarajevo pendant le siège et qui a utilisé le terme « la zone interne de violence » donc pour Sarajevo. Donc effectivement, Sarajevo était victime d'une violence extérieure imposée à travers le siège, donc permanente, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas aussi une violence à l'intérieur du siège. Et donc ce mot « zone interne de violence » pouvait aussi se formuler, pas du tout uniquement contre des habitants serbes. Bien sûr, il y avait dans un climat d'anarchie qui existait là au début, ça se pouvait se diriger contre tout le monde, d'une certaine manière. Voilà, ici, on a une vue magnifique sur le centre de la ville, avec en face de nous la colline de Hum, avec la tour télévision. Et on voit par exemple le quartier de Ciglan. Et aussi, on aperçoit le quartier où se trouve le Parlement de Bosnie-Herzégovine. Et la montagne sur laquelle on se trouve, c'est la montagne Trebević, donc c'est celle qui se trouve juste à côté de la vieille ville de Sarajevo. En fait, la ville monte jusqu'à un certain point dans les collines et dans la montagne. Donc là, pour venir ici à Kazani, on a traversé plusieurs parties de Sarajevo en hauteur, donc notamment le district de Boguševac. Et donc à un moment, on l'a quitté et là, on a fait quelques centaines de mètres dans la nature pour arriver à cette falaise-là. Donc la falaise où nous sommes ici appartenait encore donc à la ligne de défense de l'armée de Bosnie-Herzégovine et qui était sous son contrôle et qui était en fait protégée de la vue de la ligne de front de l'armée de la Republika Srpska. Et en dessous de cette falaise, il y a une crevasse là qui fait environ 10-15 mètres de profondeur et 20 mètres de longueur. Et à côté de cette crevasse, en fait, est installé un monument, une stèle très simple dans sa configuration. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a sur ce monument. Donc, Spomen obilježje Kazani, donc monument souvenir Kazani. Donc, Kazani, c'est le lieu, c'est l'endroit ici s'appelle Kazani. Et après, il y a les dates 1992-1993. Après, il y a une phrase. Donc, za uvijek ćemo se za tugom i poštovanjem sjećati naši ubijenih sugrađana, donc pour toujours, nous allons, avec tristesse et respect, nous souvenir de nos concitoyens tués ou assassinés. Et après, il y a une liste de noms. Il y a le signe de la ville de Sarajevo, et le nom Grad Sarajevo, ville de Sarajevo, et l'année 2021, donc c'était l'année où a été construit ce monument par la ville de Sarajevo.
The mayor of Sarajevo decided to commemorate
Dunja Krvavac, architect.
Over 200 dead.
La maire de Sarajevo
with a rock,
a décidé de commémorer environ 200 Sarajeviens morts assassinés avec un caillou. C'est un caillou. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne sais pas comment l'expliquer, ni quel mot employer, à part dire que c'est un caillou. Il n'y a aucune architecture, aucune intention artistique. Ce n'est pas un projet. Elle a pris un caillou. Elle a inscrit le nom d'une vingtaine de personnes tuées. Elle n'a même pas inscrit qui étaient les bourreaux et pourquoi ces gens étaient morts assassinés. Il y a juste marqué « Ville de Sarajevo ». Et voilà. Nous étions encore plus furieux après ça.
C'est about like how can you not commemorate 200 lives that were lost.
Comment peux-tu décider de ne pas commémorer ces vies perdues et continuer comme ça en n'en ayant rien à foutre?
Comme pour beaucoup de crimes commis durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, et comme c'est le cas dans toutes les guerres, il est souvent difficile de fixer un nombre de victimes exact. Cette difficulté ne relève pas forcément d'une volonté de dissimulation ou d'exagération, mais parfois d'une distorsion entre, par exemple, le nombre de corps retrouvés, le nombre de corps recherchés, les rumeurs, les faits présumés, les traces écrites, les témoignages perdus, les faux témoignages. Kazani n'échappe pas à cette problématique. J'ai toujours entendu ce nombre de victimes varier de 30 à 200, sans jamais que cette fourchette ne change, sans jamais que le nombre soit fixé.
Alors si on regarde la stèle qui effectivement fait juste 1 mètre de haut et, ou 1 mètre 50 de haut, même pas, et 1 mètre de large, et si on lit que le texte et si on ne sait pas ce qui s'est passé ici, on ne va pas comprendre ce qui s'est passé ici, parce que le texte est extrêmement minimaliste. Il dit donc, voilà, ce qu'on sait, c'est que des gens ont été tués ici. Il y a une liste après de 15 noms. Et on voit la date de naissance et la date où ils sont morts. Donc on voit effectivement, ils sont morts en 92 et en 93. Mais on ne sait pas comment, par qui, pourquoi. Donc ça, ce monument, ou effectivement plutôt cette stèle, n'en dit rien. Donc effectivement, en se tenant que au texte qui est écrit là, on ne saura pas ce qui s'est passé ici. Donc pour ça, il faut faire une recherche ou bien demander à des gens qui savent ce qui s'est passé ici pour en savoir plus.
Alors le début de la défense de la ville, en fait, en 92, elle est d'abord organisée par des petits criminels de la ville, des groupes comme ça organisés. Et à l'intérieur de ces groupes, il y a je pense qu'on peut l'appeler milice, de Mushan Topalovic. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette brigade et de cet homme ?
En fait, cette partie-là de la ville était sous le contrôle, au début de la guerre, d'une unité paramilitaire qui s'appelait Bosna 10. Le chef de cette unité après brigade s'appelait Mushan Topalovic, et son surnom c'était Tsaatso. En fait, c'était un chanteur avant la guerre, mais comme au début du siège, effectivement, il n'y avait pas d'armée de Bosnie-Herzégovine organisée, la défense s'est organisée de différentes manières. Et il y avait plusieurs milices qui se sont constituées dans différentes parties, et ce Mushan Topalovic dit Tsaatso, son quartier c'était Bistrik, et très rapidement il a réussi à mobiliser des centaines, très rapidement même 2000 hommes, qui ont été très importants pour la défense de cette partie de la ville, donc en dessous de la montagne de Trebević. Lui, il régnait comme un chef mafieux dans cette partie de la ville, donc où il extorquait des fonds, il terrorisait les gens qui voulaient terroriser, de différentes manières. Alors il était particulièrement connu, par exemple, pour organiser des razzias dans des cafés, où il ramassait tous les hommes qui étaient là, et les emmenait sur la ligne de front pour creuser des tranchées, avec l'argument... Nous, on défend la ville, il n'y a pas de raison qu'il y a certains d'autres qui ne font rien, donc on va les amener en haut. Tout en sachant, bien sûr, que c'était extrêmement dangereux de creuser des tranchées sur le front de ligne et des personnes se sont fait tuer par là. En même temps, donc, voilà, il a commis différents types de crimes. Et en même temps, ce qui s'est passé aussi pendant l'été 92, donc avec la constitution finalement de l'armée de Bosnie-Herzégovine, la question c'était bien sûr qu'est-ce qu'on fait avec ces unités paramilitaires qui existaient dans différentes parties de la ville. Et en fait cette unité qui s'appelait Bosna 10 est devenue la 10e brigade de montagne au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Donc de fait, elle faisait maintenant partie officiellement de l'armée de Bosnie-Herzégovine, mais c'était toujours Tsaatso qui régnait en maître et qui ne s'intéressait pas du tout bien sûr à une hiérarchie militaire ou à... au ministère de la Défense et autres. Donc il continuait à régner comme il le voulait lui, et donc de plus en plus de crimes ont été commis. Ça se savait, mais on n'en parlait pas trop ouvertement, parce que bien sûr c'était une situation très ambiguë. On savait qu'avec 2000 hommes, il était essentiel pour la défense de cette partie de la ville, et en même temps, il commettait des crimes. Et alors, une des choses qui s'est de plus en plus profilée, mais ça aussi, enfin ça se savait, mais sans le dire trop haut, que la première cible de ces crimes... c'était des civils serbes qui habitaient Sarajevo, dans son quartier de Bistrik. Et c'est ce qui nous amène ici donc à cette crevasse de Kazani. Donc, en fait, de Bistrik, qui se situe au bas de la ville, en fait, les personnes kidnappées, carrément arrêtées, étaient amenées par des soldats de Tsaatso, ici, vers cette crevasse, et ont été assassinés ici. Et en même temps, ils ont été jetés dans la crevasse. Donc en fait, cet endroit où on se trouve maintenant, c'est en même temps un lieu d'assassinat et une fosse commune.
On est devant le projet de monument pour Kazany. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet et quelle était l'idée?
The memorial itself was we wanted to make a situation where a person who is visiting the memorial is going through the same path.
Pour le mémorial, nous voulions mettre les visiteurs dans la situation où ils prendraient le même chemin que les personnes qui ont été emmenées pour être exécutées.
It was also made out of cortin steel. It was made out of basically 5 or 6 elements.
Et nous avions prévu un pont en acier galvanisé au-dessus du gouffre,
enclosed bridge,
fait de 5 ou 6 pièces différentes,
wide, so it's only for one person to go,
et seulement 80 centimètres de large.
The bottom of the bridge was also cortin steel plates, but they were
donc une seule personne à la fois pouvait l'emprunter.
Put aside from each other, creating a small narrow space between them, where you can actually see the pit.
Les pièces du tunnel étaient légèrement écartées, donc vous auriez vu le gouffre sous vos pieds.
And there's a small narrow passage in the end of the bridge when you cross the pit, where in the end you come to a spot.
Le pont se rétrécissait, et à la fin, vous arriviez à un endroit d'où l'on peut voir tout Sarajevo.
The idea was to kind of have this reliving the path of the victims.
L'idée, c'était de revivre le chemin des victimes,
understanding that,
mais aussi à la fin de comprendre
it's a horrible crime that we need to remember,
qu'il faut se souvenir de ce crime horrible.
When you see Sarajevo, hopefully bathed in sun, as it is the most beautiful scene that you
mais
can
quand
see,
vous voyez Sarajevo baigné dans le soleil, vous comprenez qu'il faut aussi avancer
kind of
et vivre.
Remember the dead, but also think of the future.
Se souvenir des morts, mais penser à l'avenir.
Cela a duré en fait pendant plus d'un an, et il y a eu plusieurs tentatives de faire quelque chose contre, parce qu'encore une fois, bien sûr, au niveau de l'armée et au niveau du gouvernement, ça se savait. Donc, et il y avait notamment Jovan Divjak, qui était donc un des commandants de l'armée de Bosnie-Herzégovine, et lui-même d'origine serbe, qui essayait d'avertir Alija Izetbegović, le président de Bosnie-Herzégovine, il y a ces meurtres, il faut arrêter, il faut faire quelque chose contre Tsahatso. Mais en fait, pendant longtemps, il n'y a pas eu de tentative sérieuse pour l'arrêter. Mais finalement, effectivement, en octobre 1993, le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a décidé de stopper Tsahatso et un autre chef de milice qui était dans un autre quartier, dans une opération qui s'appelait opération Trebević, donc du nom de la montagne qui surplombe cette partie de la ville. Avec le concours de la police, ont envoyé des policiers pour faire arrêter Tsahatso dans son appartement en bas à Bistrik. Alors cette arrestation a très mal tourné. En fait, les 9 policiers qui sont venus ont été assassinés par Tsahatso et ses hommes. Et il s'est barricadé dans son appartement. Et c'est seulement, donc ça c'était en octobre 1993, et c'est seulement après un téléphonat avec Alija Izetbegović qu'il a dit « Ok, je vais me rendre » en lui promettant que rien ne lui arrivera. Donc il a été arrêté, et une heure plus tard, il est mort. Donc officiellement, parce qu'il voulait prendre la fuite, mais bien sûr, enfin, ça c'est, il est beaucoup plus vraisemblable qu'il a été assassiné à ce moment-là. Et des soldats, après, ont été dispatchés dans d'autres brigades. Donc en fait, c'était une opération qu'on appelle un peu une action contre les criminels dans nos propres rangs. C'était comme ça qu'elle était appelée en 93, pour que l'armée de Bosnie-Herzégovine effectivement se débarrasse de ces éléments criminels qui suscitaient au sein d'elle. Le danger quand on parle des crimes contre les Serbes commis par l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est que c'est instrumentalisé à mort par la propagande nationaliste bosno-serbe. Donc ils l'utilise pour dire, vous voyez, en fait, c'était pas nous que les méchants, tout le monde était méchant, ou en fait, c'est les musulmans qui nous ont assassinés, etc., etc., avec des chiffres complètement fantaisistes, etc. Et je pense que ce discours, il est omniprésent. Donc, effectivement, quand tu as défendu la ville, et quand après, des gens parlent de Kazani et de Serbes assassinés ici, je comprends que ça peut énerver, et c'est-à-dire et que ça peut renforcer cette idée qu'on veut tout égaliser, que tous étaient les mêmes, etc. En même temps, heureusement qu'il y a beaucoup de gens de Sarajevo, justement aussi des non-serbes, qui disent « mais non, il faut quand même en parler enfin, ». Parce que si on veut être honnête par rapport à notre propre histoire, il faut aussi admettre les crimes qui ont été commis. Parce que sinon, on devient comme les autres. On devient comme les nationalistes qui dénient tout. Et nous, justement, on veut pas être comme ça. Donc je pense que c'est assez remarquable quand même que c'est un processus bon, qui a pris 30 ans. Mais si on voit que dans d'autres pays d'après-guerre, à quel point ça met une éternité avant que une société accepte de parler de ses propres crimes. En fait, 30 ans, c'est un laps très court. Et encore une fois, ça a commencé en 97, cette discussion-là. Et le monument, effectivement, on peut le critiquer. Au moins, on a un monument. Hein. Donc, c'est déjà. Alors, il y a certains qui disent mieux vaut aucun monument qu'un monument mal fait. Après, on peut aussi dire mieux vaut un monument mal fait que pas de monument du tout. Donc, ça se débat. Mais en fait, c'est le premier monument, je pense même dans les Balkans, etc., qui est érigé par une ville pour des victimes de crimes commis par les gens du propre rang. Hein. Donc, c'est assez remarquable. Encore une fois, ça va pas de soi. Et il suffit de rappeler que la première reconnaissance officielle par l'État français que la police française a participé à la déportation des Juifs, c'était en 95 avec Jacques Chirac au Veldiv. Donc ça fait 50 ans après les faits. Hein. Donc 50 ans, ça a pris. Bon, il y a déjà eu des discussions avant, mais pour que officiellement l'État français reconnaisse ces crimes-là. Alors souvent on dit que la mémoire de la guerre en Bosnie-Herzégovine est figée, où il n'y a rien qui se passe, mais en fait non, il y a des débats extrêmement vivants, très douloureux souvent, hein, et il y a souvent, c'est très difficile de dialoguer parce qu'en fait les partis nationalistes continuent de mobiliser les souvenirs de guerre pour faire peur et pour monter les uns contre les autres, mais il y a des initiatives vraiment remarquables et souvent des discussions, et je pense que cette discussion autour de Kazani est un des exemples qui montre cette volonté de discuter, de volonté d'aller contre un relativisme, de volonté d'aller contre la négation, un déni de fait, qui est aussi justement assez forte en Bosnie-Herzégovine.
En dépit de la vivacité des débats, comme partout, il reste bien sûr des lacunes abyssales à combler, des victimes oubliées, des crimes niés, des traces gommées. On ne compte pas le nombre d'écoles, de maisons de la culture, de cinémas, de granges, de stades transformés en lieux de détention, de torture, d'exécution. Certains bâtiments ont repris leur fonction d'avant-guerre, d'autres sont abandonnés ou en ruine. On murmure à leur sujet, on détourne le regard. Parfois, les survivants développent des stratégies d'évitement et modifient leur trajet pour ne pas avoir à recroiser la présence de ces murs qui ont contenu leurs souffrances. Le Centre d'action non violente de Sarajevo a commencé à marquer ces lieux laissés anonymes, comme nous l'explique Amer Delic.
Imali smo slučaj na jednom ovom našem druženju sa mladima, trening iz izgradnje mira.
Pendant un atelier, nous avons eu un jeune dont le père avait été emprisonné dans un stade. Il y était détenu. Nous parlions de la mémorialisation et ce jeune a dit qu'il voudrait que ce stade soit marqué, qu'il y ait un signe qui dise « Ici, c'est un lieu où s'est produit un crime ». Et là, on a réalisé que certains n'avaient littéralement pas droit à la mémorialisation. On voyait aussi avec les vétérans. On arrive quelque part, il y a un monument, une plaque pour les morts. Tu vois les rues qui portent le nom de héros locaux, et puis tu tournes dans la rue suivante, et là tu vois des maisons détruites. Il n'y a plus personne, il n'y a pas de monument. Les bâtiments religieux ont été détruits, puis souvent rénovés. Petit à petit, tu apprends qu'il y avait une communauté avant, que peut-être deux ou trois personnes sont revenues. 20 ou 30 ont été tués, 200 ou 300 déportés. Et pas de monument, rien.
To su ta neobilježena mjesta stradanja. Ili gdje neko bilo masovni pokolj, neki masovni zločin ubistva, zna se, zna se
ta lokacija, da li
su neka škola, neko, ne znam, kino sala, ili neka...
Des lieux de violence, de crimes de masse. On connaît ces crimes, ces lieux. Ce sont des écoles, des cinémas, des usines.
I zato je taj naziv neobilježeno mjesto stradanja.
Des gens y ont été exécutés, il n'y a pas une plaque, un signe, rien.
Ali smo promijenili kvalifikaciju kako smo vremenom...
Pas de monument,
da nije sve
pas de mémorial.
...kao ratni zločin. Evo, imate neka procesirana ubijstva.
C'est comme ça qu'a commencé le projet Les lieux de souffrance anonyme.
To ipak po sudskim presudama su ubijstva.
Au début, on disait les lieux anonymes de crimes de guerre, mais on a réalisé que tout n'était pas jugé comme crime de guerre. Certains cas ont été jugés comme meurtres. Kazani, Trusina, Grabovica.
Postoje takva mjesta, a iz tih mjesta znamo i veterane i još neke ljude.
Donc on a changé le nom du projet. On a compris qu'on devait aller dans ces lieux et soutenir les survivants des massacres qui ont lieu dans ces endroits. Qu'on soit présent. Ensuite, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Pour nous, il était important que le message soit universel, imprimé sur une affichette collée sur le bâtiment, photographier le tout et ensuite le publier sur les réseaux accompagné des verdicts du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. On rappelle que dans ce lieu s'est produit un crime, que des gens ont été enfermés ou tués. Qui est responsable? Les conséquences? Quelle communauté ethnique est affectée? Qui sont les bourreaux? On a dressé une véritable carte d'identité de ces lieux.
L'un des exemples les plus absurdement marquants d'amnésie organisée par les bourreaux d'hier est le camp de l'Héliodrome, au sud de Mostar. Ce sont environ 10 000 personnes non croates, majoritairement des bosniaques musulmans, qui sont passées par ce camp de concentration tenu par le Conseil de défense croate entre mai 1993 et avril 1994. Installé dans les anciennes baraques de l'armée de l'air yougoslave, le camp n'était pas si loin du centre-ville et de la ligne de front. Les détenus y étaient régulièrement emmenés pour effectuer des travaux sur la ligne de front, aller récupérer des corps, servir de bouclier humain. Dragan Čović, actuel chef des ethno-nationalistes croates et chouchou de l'Union européenne, était à l'époque directeur de l'usine Soko. Il avait requis des prisonniers du camp de l'Héliodrome pour venir travailler dans son usine. Travail forcé dehors, torture, humiliation, violence sexuelle au camp. Pour tout cela, plusieurs hauts responsables nationalistes croates furent jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, les survivants du camp de l'Héliodrome sont empêchés de commémorer leur détention. L'accès à l'ancien camp leur est interdit. Chaque année, devant les grilles fermées, ils viennent déposer quelques fleurs et se recueillir. L'université croate de Mostar bénéficie désormais d'une partie de l'ancien camp pour son campus. Dans une autre partie de ce lieu de détention et de violence, un musée à la gloire du Conseil de défense croate doit s'installer. C'est donc là où cette armée, aujourd'hui disparue, a commis une partie importante des crimes qui lui sont reprochés, que le dirigeant nationaliste croate ont décidé de lui rendre hommage. Glorification des bourreaux, piétinement des victimes, encore une fois, très seules face aux négationnistes.
Effectivement, les partis politiques qui sont au pouvoir que ça soit grâce à l'éducation, grâce à la politique générale, essaye d'imposer ce discours. Hein. Donc, si on regarde, par exemple, les manuels d'histoire en Bosnie-Herzégovine, là aussi, dépendant qui a la majorité dans un pays, on va trouver des manuels d'histoire où, en fait, la référence historique, c'est la Serbie, d'autres où la référence historique, c'est la Croatie, et d'autres où la référence historique, sont la Bosnie-Herzégovine. Donc, et tout ça dans un pays d'à peine 3 millions d'habitants, donc avec des discours narratifs très différents. En même temps, voilà, ce que ça veut dire, ces discours dominants, c'est qu'il y a beaucoup de mémoires invisibilisées ou opprimées. Hein, donc, dès qu'on n'appartient pas à la majorité dans un certain territoire, c'est difficile de faire entendre d'autres voix, donc sur des crimes qui ont été commis ou d'autres aspects.
Dans la grande valse mémorielle bosnienne, il n'y a pas que les crimes qu'on s'efforce d'effacer, il y a aussi 45 ans d'histoire de la Yougoslavie. La devise yougoslave « Bratstvo i jedinstvo », fraternité et unité, est devenue louche dans une société bosnienne où l'injonction d'appartenance à un groupe ethnique prime sur le bien commun. Les fondements antifascistes de la Yougoslavie et de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine sont devenus suspects dans cette société où les politiques d'extrême droite ethno-nationalistes sont au pouvoir pratiquement sans discontinuer depuis des décennies. Pourtant, la guerre de libération nationale yougoslave qui se déroule de 1941 à 1945, est un pan important de l'histoire européenne, et la Yougoslavie, le seul pays à s'être libéré seul de ses occupants. La résistance antifasciste et communiste des partisans de Tito fut le plus grand mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. On en trouve pourtant peu ou pas trace dans les manuels d'histoire européens.
Oui, alors ce projet VS Walter, le thème c'est la résistance antifasciste, anti-nazie, anti-occupation, anti-collaboration en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors le titre VS Walter se rapporte à un personnage légendaire à Sarajevo, donc Vladimir Peric, dont le nom de code était Walter, comme pour Jean Moulin c'était Rex ou Max, donc bien sûr tous les résistants qui se respectaient avaient un nom de code. Et ce Walter était donc en fait le leader un peu de la résistance antifasciste à Sarajevo même, et il s'est fait tuer la nuit de la libération de Sarajevo, donc du 5 au 6 avril. Alors on a choisi ce titre VS Walter parce qu'il est d'une part parce qu'il est très connu en ex-Yougoslavie, mais ailleurs en Europe on le connaît pratiquement pas, donc un peu notre point de départ c'était... Voilà, qui est Walter? Qui sont les Walter? Qui ont été les résistants dans nos différents pays et qu'on ignore souvent? Alors on s'est focalisé sur 4 pays, la France comme pays d'Europe occidentale, l'Allemagne comme pays d'Europe plus centrale, et la Bosnie et la Croatie comme partie de l'espace yougoslave, parce que pour nous c'était particulièrement important de travailler sur l'ex-Yougoslavie et de l'insérer justement dans un discours sur l'histoire et la mémoire européenne, parce que malheureusement... Aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'efforts qui se font depuis 20, 30 ans et même plus de parler d'une histoire et de mémoire européenne, souvent on oublie dans ce discours l'espace post-yougoslave. Et c'est d'autant plus dommage que justement pour la Deuxième Guerre mondiale, si on parle d'un mouvement de résistance qui était sans doute le plus efficace dans toute l'Europe, c'était bien le mouvement des partisans yougoslaves, qui était le seul mouvement qui a réussi à libérer le pays occupé de l'intérieur. Donc, alors que effectivement tous les autres pays, il y a eu des mouvements de résistance, mais sans l'intervention américaine, anglaise ou soviétique, la libération n'aurait pas eu lieu. Et donc, ce projet a donné lieu à une publication, à un site internet, et puis une nouvelle exposition permanente au Musée historique de Bosnie-Herzégovine. En fait, la première exposition permanente sur ce thème-là depuis la Yougoslavie, puisque ce thème-là des partisans, alors que c'était bien sûr le thème dominant dans l'historiographie et la mémoire officielle en la Yougoslavie socialiste, est complètement passé de mode depuis les années 90. Et même pour en dire plus, c'est un sujet qui est souvent attaqué, décrié, et c'est assez difficile de parler de cette mémoire-là aujourd'hui aussi en Bosnie-Herzégovine et dans tout l'espace ex-Yougoslave.
Alors là, on est à côté du musée d'histoire de Bosnie-Herzégovine et devant nous, il y a plusieurs choses. Il y a ce monument Icar, qui est la reproduction d'une boîte de conserve qui était dans l'aide alimentaire qui était envoyée pendant le siège. Ces conserves de corned beef, c'est ces histoires avec l'approvisionnement américain qui avait envoyé les restes du Vietnam, donc des trucs périmés, voilà. Puis derrière, il y a les tours de Gorbavitsa, qui était un quartier qui était contrôlé par l'armée serbe. Donc on voit bien que l'armée assaillante était quand même arrivée très loin dans le centre-ville, à Sarajevo. Les snipers de l'armée serbe étaient postés dans ces tours. Et puis ben, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille vers le musée d'histoire, qui est dans un état extérieur, en tout cas très, très abîmé et très délabré. Cette façade pratiquement en ruine, alors qu'en face, on a le musée national qui, lui, est refait, enfin voilà, dont la façade est correcte et qui n'est pas taguée. La directrice avec qui on va discuter, Elma Simbegovic, va nous raconter, en fait, dans quelles conditions le musée opère et comment son équipe se bat pour préserver le musée, la collection et les histoires qu'il raconte.
So I said earlier that the museum has continued at the moment when it decided to change the politics, to transform.
Nous avons décidé de changer de politique, de transformer le musée, d'exploiter nos propres ressources.
Financial resources, but on the other hand, having collections as resources.
Elles ne sont peut-être pas financières, mais nous avons notre collection permanente, nos archives, notre incroyable bâtiment.
Very early to go back to our main resources, to our archives.
Nous avons commencé très tôt à nous pencher sur nos archives et cela nous a amené à la Seconde Guerre mondiale.
Somehow not present any longer in the public space.
Et à cette thématique qui n'était plus présente dans l'espace public.
The topic, especially topic of resistance and topic of partisans.
Donc nous avons rapidement mis en avant cette thématique de résistance, des partisans.
Existing any longer, we tried to put it back to the public. Doing it in different ways and doing it, yeah.
Tous ces sujets invisibles, nous les avons réintroduits auprès du public, comme nous le pouvions.
Yeah, in a way that we could. But at that one moment, we realized that, I mean, we have to also strengthen our capacity, and then we have to be even braver in these attempts of putting back the topic to the public. So we made it through the international project together with our French colleagues.
Puis nous avons réalisé que nous devions aller plus loin avec nos collègues français, allemands, croates.
So four partners gathered around Verestvalter.
Et nous nous sommes retrouvés autour du projet Verestvalter.
I'm talking now from the perspective of the museum, how we saw it. So we thought that we have to talk about the topic of anti-fascist resistance during the
Du point de vue du musée, nous devions parler de la résistance antifasciste durant la Seconde Guerre mondiale.
Alors voilà, on est dans l'atrium du musée, donc on est dehors dans cette grande exposition sur la Seconde Guerre mondiale qui occupe vraiment tout l'espace de la cour. On entend derrière le boulevard Mecha Selimovic. On peut s'avancer. Et donc il y a vraiment toute l'histoire de la résistance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça va vraiment des insignes de toute cette diversité, en fait, hein, qu'il y avait dans les partisans, qui explique, par exemple, cette section qui s'appelle « It is complicated », où le musée, pour cette exposition, a réussi à sortir d'une narration purement comme s'il y avait des blocs, en fait, extrêmement homogènes, mais de montrer vraiment toute la diversité des combattants qui étaient présents dans l'armée des partisans. Donc voilà, il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a vraiment Par exemple, toutes ces... donc il y a des armes, des obusiers. Ce qui est important, c'est aussi que cette exposition, elle rappelle que cette armée des partisans a été le plus gros mouvement armé de résistance d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est aussi très passé sous silence. On a l'impression que ça fait presque pas partie, finalement, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, la résistance des partisans de Tito, quand on nous enseigne la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, quand on est en dehors de l'espace post-yougoslave. Et il y a une section qui est aussi très intéressante sur les femmes partisans, qui étaient extrêmement nombreuses. C'est aussi une caractéristique de l'armée de Bosnie-Herzégovine pendant la guerre des années 90. C'est qu'il y a énormément de femmes qui se sont engagées dans l'armée. Ce qui est aussi important, c'est qu'on voit aussi très bien des femmes qui portent le hijab, que des femmes qui font leur première communion. Donc voilà, on voit tout ce panel de communauté qui a rejoint la lutte antifasciste, avec des photos, voilà, on voit plus de villageoises là qui nettoient les décombres, mais on voit aussi, parce que ce sont aussi elles qui ont pris en charge les classes, donc on voit sur cette photo là au milieu des décombres une femme avec des petits qui sont assis, et ça c'est grâce au front antifasciste des femmes, Antifascistički Frangena, qui était une très grande organisation de femmes antifascistes, qui a eu un rôle énorme pendant la guerre et après la guerre, qui a été dissoute par le pouvoir de Tito, je crois, en 54, parce qu'elles étaient un petit peu trop à gauche par rapport à la ligne du parti, et elles prenaient il y avait une place presque trop... c'est un petit raccourci, mais un peu trop subversive, en fait, dans ce qui était en train de se passer en Yougoslavie à ce moment-là. Et donc, c'était les renvoyer chez elles et dans les usines, mais pas à l'activisme. Donc là, on voit bien tous les rôles différents des femmes qui sont en train de prêter serment pour entrer dans l'armée, des infirmières, des très jeunes filles aussi qui portent le fusil, etc., etc.
Donc je dirais, voilà, ça c'est les deux raisons principales. D'une part, la dimension multinationale des partisans yougoslaves et la dimension communiste qui aujourd'hui gêne et qui fait que, en fait, le mouvement est souvent décrié ou attaqué. Alors des fois, il y a aussi des manipulations intéressantes de l'histoire. Donc par exemple, dans le discours nationaliste bosno-serbe, en fait, pour faire simple, comme beaucoup de partisans étaient serbes, en fait, la mémoire des partisans n'est pas du tout rejetée. Elle est nationalisée. C'est une mémoire de partisans uniquement serbes. Donc, en fait, on le fait entrer dans une narration d'histoire nationale serbe. Et ça se voit aussi, par exemple, quand on regarde des monuments qui ont été érigés à l'époque yougoslave. Donc, il y en a partout en ex-Yougoslavie. Beaucoup ont été détruits, d'autres ont été maintenus, d'autres ont été transformés, certains sont négligés. Mais ce qui aussi souvent arrive, et notamment dans là où... partis des nationalistes serbes sont au pouvoir, c'est qu'on plante un drapeau serbe sur le monument aux partisans, et qui justement évitait toute dénomination ethnique, qui essayait de montrer, voilà, c'est des victimes du fascisme et d'autres, ou bien on construit une petite église orthodoxe sur le monument ou à côté du monument. Donc d'une certaine manière, on nationalise ce qui était multinational ou ce qui était dans l'idéologie nationale, même si à un endroit, c'était effectivement vrai, pratiquement que des Serbes faisaient partie peut-être à un endroit de ça, mais encore une fois, dans l'esprit des partisans, justement, c'était de dépasser l'idée qu'on parle d'un mouvement serbe ou croate ou d'autres, voilà, d'un mouvement commun de Bosnie-Herzégovine.
Sonce nek sije, ne radost, ne prije.
we realize that young people don't know anything about it any longer. They don't learn anything in history.
Nous avons réalisé que les jeunes ne savent rien de la Seconde Guerre mondiale. Des partisans, de la résistance.
Ideology with clear cut with the previous history. History that starts from us or starting from the 90s.
Car tout est étouffé par l'idéologie nationaliste des années 90. Donc, on a des jeunes générations qui ignorent tout du passé.
We are talking about one of the most important periods in history, like history of the 20th century, of this country, where the resistance movement was established. It was the largest army.
Du fait que, par exemple, la résistance yougoslave était le plus grand mouvement de résistance d'Europe, avec une participation des femmes importante.
That can be compared with the other European resistance movements.
Des caractéristiques comparables avec d'autres mouvements de résistance européens. Project
which is called Verestwalter.
Nous avons réactualisé cette histoire avec le projet Verestwalter.
Tasks for the museum and for us here as partners and as a team was how to create an exhibition again after almost 50 years. So the first exhibition was created in 1966.
La tâche de l'équipe du musée a donc été de créer une exposition sur ces thèmes, jamais abordée depuis l'exposition de 1966, qui n'avait jamais été renouvelée.
Et je pense que ce qui se reflète aussi là-dedans, c'est un moment très très important qui était en 1943, donc qui était un peu la première réunion effectivement du mouvement partisan politique pour toute la Bosnie-Herzégovine, qui était pour définir en fait la future Bosnie-Herzégovine. Et à ce moment-là, il y a eu cette phrase célèbre qu'on a souvent citée après. La Bosnie-Herzégovine n'est ni musulmane, ni serbe, ni croate, mais elle est en même temps musulmane, serbe et croate. Et donc c'était ça un peu vraiment l'idée, l'idéologie en fait qui après aussi définissait la Bosnie-Herzégovine. Et comme l'a dit Milenko Jergovic, donc l'écrivain après les accords de Dayton, il a dit en 43 dans cette réunion des partisans en Bosnie-Herzégovine, on a dit la Bosnie-Herzégovine n'est ni musulmane, ni croate, ni serbe, mais musulmane, croate et serbe. À Dayton, en 95, on a décidé quelque chose d'autre. On a aussi dit la Bosnie-Herzégovine n'est ni serbe, ni croate, ni musulmane, mais certaines parties sont serbes, certaines parties sont musulmanes et certaines parties sont croates. Donc on voit, ça transvestit complètement l'idée originale de l'aspect multinational. Bien sûr, on peut dire a priori c'est toujours multinational, mais c'est plus une vraie dimension multinationale. C'est les uns à côté de l'autre, chacun a son territoire et est censé pouvoir faire ce qu'il veut faire dans son territoire. Et ça détermine aussi la politique des mémoires officielles en Bosnie-Herzégovine, puisqu'effectivement, dépendant du territoire, qui est le parti politique national qui domine, c'est un discours nationaliste serbe ou nationaliste bosniaque ou nationaliste croate qui va dominer dans ce territoire-là.
Alors là, on arrive dans la partie du musée qui est vraiment sur le siège de Sarajevo, où il y a plein de petits objets, en fait. C'est ce que j'aime particulièrement dans cette façon de raconter le siège. C'est le quotidien des gens dont on sait qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas d'électricité, mais on raconte peu comment les gens se sont débrouillés, en fait, pour pouvoir cuisiner et se chauffer. Et là, on est devant toute une collection de poêles que, après la guerre, d'ailleurs, les gens jetaient. Je me souviens, dans les années 98-99, vraiment, dans certains endroits de quartiers qui étaient en ruine, qui n'étaient pas habités de nouveau, on voyait ces poêles jetées dans des terrains vagues. Et on voit, par exemple, voilà, des grosses boîtes de conserve trouées pour faire cuire des choses. Probablement des bouts de gouttières récupérées pour faire les tuyaux d'évacuation. Toute une sorte d'inventivité, en fait, pour fabriquer des résistances et chauffer de l'eau. Voilà, ce sont des choses du quotidien des gens et de cette faculté d'adaptation, en fait, pour la survie sans eau et sans électricité. Et puis là, une pièce. Alors moi qui me... Bon, je crois qu'on a été plusieurs à beaucoup pleurer quand on l'a vu. C'est le drapeau de la République de Bosnie-Herzégovine qui était accroché à la présidence pendant toute la guerre et qui est, voilà, qui est désormais exposé au musée et qui porte les traces, des traces de balles, j'imagine. Ce drapeau, cet écusson... Alors, avec trois lisses en triangle dans la partie supérieure et puis trois lisses en ligne dans la partie inférieure qui sont le symbole du royaume de Bosnie-Herzégovine. Ce drapeau était devenu le drapeau de l'armée de Bosnie-Herzégovine et il a été... voilà, je pense que les Bosniens auraient voulu que ce symbole devienne le drapeau. Mais ça n'a pas été possible puisque je crois que les nationalistes serbes ont refusé. Et donc le drapeau a été dessiné par les étrangers. Il rappelle vaguement le drapeau de l'Europe. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on regarde ni le lien avec la Bosnie-Herzégovine. Voilà, on le voit... sur cette photo de Jean-Claude Atterreur, le drapeau installé à l'entrée de la présidence qui est protégé par des sacs de sable, gardé par un soldat tout seul. Avec la rue devant, sous la neige.
Épisode 3, des mémoires encombrantes. Merci à Amer Delic, Elma Hachimbegovic, Dunja Krvavac, Nicolas Moll, et merci au vieux monsieur de Kazani. Voix française, Bruno Forget, Laetitia Hipp, Blanche Cluzet, Didier Brice. Prise de son, Nicolas Mathias, Marie-Claire Oumabadi, Mineta Diawara, François Saint-Jouan. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Sylvia Monduc. Documentation musicale, Antoine Vuillose. Chargée de programme, Marie-Yvonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Bosnie-Herzégovine, 1995-2025. La solitude des Bosniens. Une série documentaire d'Aline Cateux, réalisée par Yaël Mandelbaum.